sont quasiment dans les mêmes parages. Et tous les ans je trouve du changement de dessus mon passage. À tous les coups c'est pas le même chien qui gueule à mes choses. Et puis voyons si je me souviens, voyons dans ce coin de Beauce, y avait dans le temps un bon grand chemin. Cheminot, cheminot, chemine, à cette heure n'est pas plus grand que ma main. Par où donc je cheminerai demain? En Beauce, vous les connaissez pas, pour que rien ne se perde, mangerai qu'on sait quoi ces gars-là. Il mangerait de la merde, le chemin c'était à leur juger la bonne terre perdue. À chaque labour ils l'ont mangé d'un sillon de charrue. Y avait dans le temps un beau grand chemin. Cheminot, cheminot, chemine, à cette heure n'est pas plus grand que ma main. Aussi leurs arpents voulus d'un peu de glèbe toute neuve, mais le beau chemin en est devenu mince comme une couleur. Et moi qu'avec lui sous les cieux pour poser guibole, chemin à tout le monde, nom de Dieu, c'est mon bien qu'on me vole. Y avait dans le temps un beau grand chemin. Cheminot, cheminot, chemine, à cette heure n'est pas plus grand que ma main. Par où donc je cheminerai demain? On se met du blé sur le terrain qui retira ma route. Mais si je leur demande un bout de pain, ils m'envoient me faire foutre. Et c'est peut-être ben pour ça que je vois, à mesure que le blé monte, les épis baissent le nez devant moi, comme s'ils avaient honte. Y avait dans le temps un beau grand chemin. Cheminot, cheminot, chemine, à cette heure n'est pas plus grand que ma main. Par où donc je cheminerai demain? Chemin gris et blanc, sur le dos qui je passe, je veux plus qu'on me serre comme ça les flancs, car moi je veux de l'espace. Où ce que mes allumettes elles sont, dans le fond de ma panetière, et je ferai bien reculer vos moissons, oh les mangeteurs. Y avait dans le temps un beau grand chemin. Cheminot, cheminot, chemine, à cette heure n'est pas plus grand que ma main. Je pourrais bien l'élargir demain.
Radio Libertaire 89,4 MHz, c'est l'heure de l'émission Les Mangeterres, comme tous les premiers lundis du mois à 18h. Eh bien, voilà, nous allons démarrer ce tour d'horizon de l'actualité, de l'écologie et en lien avec évidemment la lutte sociale, bien sûr, par quelques articles, on va dire, de. Sans véritablement d'ordre, en particulier, je voulais commencer avec un article que je ne retrouve plus. Ça commence bien l'émission. Eh bien, on va s'adapter. Non, c'est bon, j'ai la main dessus sur la biodiversité, c'est ça. Avec Jean-Luc Porquet, donc du Canard Enchaîné, sur la COP 15 de Montréal. Et qui nous rappelle qu'en 92, donc déjà au sommet de Rio, au sommet de la Terre, donc 200 pays étaient rassemblés sous l'égide de l'ONU et s'étaient mis d'accord sur deux traités internationaux. Premièrement, la Convention sur les changements climatiques et également la Convention sur la diversité biologique. C'était promis, la planète allait cesser de se réchauffer, le vivant allait cesser de s'effondrer. À ce même sommet, donc en 1992, George Bush père avait fait sensation avec son fameux « le mode de vie américain n'est pas négociable ». Tout le monde avait compris alors que sauver le climat et le vivant, ça n'allait pas être de la tarte, vu qu'il s'agissait surtout de sauver le business. Et dans les autres pays industrialisés, on n'est pas loin de penser la même chose. N'empêche que les COP, nous dit Jean-Luc Porquet, donc du Canard Enchaîné, les fameuses Conferences of the Parties, qui réunissent les États signataires chaque année pour le climat, et tous les deux ans pour la biodiversité, se succèdent régulièrement. Si les COP climat avancent à tout petit pas et finissent par être connues du grand public, les COP biodiversité patinent sérieusement. Il faudra par exemple attendre l'année 2012 pour qu'il soit décidé la création d'une plateforme scientifique, l'IPBES, sur le modèle du GIEC, et 24 ans après celui-ci, qui réunit donc des chercheurs du monde entier afin d'apporter aux décideurs une expertise incontestable sur le vivant. Il était temps, nous dit Jean-Luc Porquet. La dite IPBES est donc aujourd'hui une autorité reconnue en la matière. Son dernier rapport, publié en 2019, est catégorique. Le rythme actuel de destruction de la biodiversité et des écosystèmes est sans précédent et menace 1 million d'espèces. L'échec le plus retentissant des COP biodiversité date de 2010, lors de la COP 10 de Nagoya au Japon. Il est resté dans toutes les mémoires au point que l'obsession des participants à la COP 15, donc l'actuelle à Montréal, qui démarre le 7 décembre, tient en une question: comment ne pas renouveler pareil ratage. La COP 10 était très ambitieuse. En affichant 20 objectifs d'Aichi pour 2020, ce plan d'action sur 10 ans à l'échelle mondiale devait mettre un coup d'arrêt à l'effondrement du vivant en réduisant la perte des habitats naturels, en multipliant les espaces protégés, en sauvegardant les barrières de corail, etc. 10 ans plus tard, en 2020, le bilan était tombé comme un couperet, pas un seul des 20 objectifs n'avait été atteint. Au contraire. Exemple, il était prévu que les subventions néfastes, entre guillemets, celles qui participent à la destruction de la biodiversité, telles que produire plus de viande bovine, construire une route ou une serre agricole, ouvrir une mine, bâtir un lotissement, etc. Donc il était prévu que ces subventions soient, si ce n'est éliminées, du moins sévèrement reniées. Elles n'ont pas cessé de grimper et atteignent aujourd'hui 1800 milliards de dollars par an. Toujours sensible à la poésie bébête des chiffres, les partenaires de la COP 15, donc sur la biodiversité, ont remarqué que nous étions en 2022. Ils ont donc listé 22 cibles à atteindre d'ici 2030, en 8 ans donc. Celles-ci ressemblent fort aux objectifs d'Aichi, donc de 2010. Elles sont même plus ambitieuses. Au lieu de protéger 17% des terres et 10% des mers, il est maintenant envisagé de protéger 30% de toute la planète. Mais il ne suffit pas de viser haut, nous rappelle Jean-Luc Porquet. L'un des enjeux les plus cruciaux de cette COP 15 est le suivi, remarque la chercheuse Juliette Landry, qui suit de près les négociations pour l'IDRI, l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales, et qui sera cette semaine à Montréal. En effet, pour que les cibles soient vraiment atteintes, il faut veiller à la mise en œuvre effective des mesures affichées et de pointer tout ce qui sera débattu à Montréal pour que les annonces soient concrétisées. Il faut un cadre de suivi avec des processus de planification, des objectifs mesurables, des indicateurs communs, des rendez-vous réguliers. L'idéal serait que chaque pays dresse un bilan national à mi-étape pour vérifier s'il est sur la bonne trajectoire, qu'une instance à mettre en place examine de près ses rapports, vu que chaque pays les rédige à sa manière, et qu'un processus pousse chaque pays à respecter ses obligations. En sanctionnant les contrevenants, plutôt que des sanctions, répond-elle, mieux vaut aider les pays qui n'y arrivent pas. Mais pour cela, il faut des moyens. On se retrouve donc dans la même situation que pour le réchauffement climatique. Les pays du Sud, donc les plus pauvres, attendent beaucoup des pays du Nord. Peu industrialisés, ils n'ont pas encore mené une chasse aux vivants aussi destructrice que la nôtre. Or, les hauts lieux mondiaux de la biodiversité sont concentrés chez eux, notamment dans les forêts tropicales. C'est donc chez eux que doit être préservé en priorité le vivant. Et cela coûte cher. En France, stopper un chantier d'autoroute à cause d'un scarabée pic-prune fait pousser des cris d'orfraie à tous les gens sérieux. Chez eux, il y a des pic-prunes partout. Mettre fin à l'exploitation de la forêt amazonienne, par exemple, entraîne un énorme manque à gagner. Les pays pauvres attendent donc des pays industrialisés des moyens pour préserver leur biodiversité, dans l'intérêt de tous. Lors des réunions préparatoires de cette COP 15, le représentant du Gabon l'a dit au nom du groupe Afrique, les pays riches promettent d'augmenter leurs aides de 10 milliards de dollars par an, mais c'est 100 milliards par an de plus qu'il leur faut. Sinon, les pays pauvres pourront dire, comme George Bush, comme vous, on va tout bousiller. L'amélioration sans frein de notre mode de vie n'est pas négociable. Conclusion pessimiste de Jean-Luc Porquet, et puis aussi un encart qui semble, moi, qui m'a semblé intéressant, hein, sur intitulé Un vautour de cochon, et qui nous parle des vautours qui, à la fin des années 90, donc trois espèces de vautours avaient disparu presque entièrement en Inde à cause d'un virus. Non, les chercheurs ont fini par comprendre que les éleveurs se sont mis à administrer préventivement à leurs vaches du diclofénac, un anti-inflammatoire qui a empoisonné massivement, même si 1% du bétail était traité, les vautours qui se nourrissent de leurs carcasses. Les charognards ayant passé l'arme à gauche, les carcasses pourrissent au soleil et attirent de nouveaux charognards que le diclofénac laisse de marbre, comme les rats, les chats sauvages et surtout les chiens errants, lesquels se mettent à pulluler. Or, ils véhiculent, entre autres, la rage. En 2003, l'Inde devient le pays où le nombre de décès humains dus à la rage est le plus élevé au monde. Morale de l'histoire, le vivant est complexe, riche de multiples interactions que nous sommes encore loin de comprendre et nous rend de nombreux services écosystémiques. Aucune espèce n'est donc inutile, conclut l'article, voilà, qui illustre bien un des multiples aspects de la biodiversité qui est à préserver. Alors, toujours dans un tour d'horizon sans vraiment de fil conducteur, cet article pris dans Reporter, eh bien, c'est officiel depuis le 15 novembre dernier. La Terre compterait dorénavant 8 milliards d'humains, d'après l'ONU. Il a fallu des centaines de milliers d'années pour que la population mondiale atteigne 1 milliard de personnes, mais seulement 11 ans pour passer de 7 à 8 milliards. Les pays où devraient se concentrer les plus fortes croissances démographiques sont l'Égypte, l'Éthiopie, l'Inde, le Nigeria, le Pakistan, les Philippines, la République démocratique du Congo et la Tanzanie. La croissance de la population mondiale va s'accélérer encore quelques décennies avant d'atteindre un pic en 2080 avec plus de 10 milliards d'habitants. Elle devrait ensuite se maintenir à ce niveau jusqu'en 2100, selon le scénario médian du rapport de l'ONU sur les projections de la population mondiale 2022. Ces méga-tendances ont de lourdes implications avec, par exemple, des conséquences sur le développement économique, sur l'emploi, la répartition des revenus, la pauvreté et les protections sociales, remarque l'ONU. Cet accroissement de la population soulève également des questions d'ordre éthique. Comme le rapporte un dossier de Reporter sur les enjeux démographiques, il sera difficile de nourrir, loger, chauffer, soigner et éduquer une dizaine de milliards d'individus sur une planète déjà à bout. Alors, juste par rapport à cet article, je voulais revenir un petit peu sur une réponse, hein, sommes-nous trop nombreux, une des réponses pourrait être de dire que, en tout cas, si on prend l'exemple du transport, hein, que la Terre ne peut pas se permettre d'accueillir 10 milliards d'automobilistes. Cette phrase, pour illustrer le fait que c'est bien l'intensité et l'impact de la consommation humaine et à mettre plus en avant que l'accroissement de nombre de personnes sur Terre. Hein. C'est pour ne pas se tromper non plus de combat, même si le contrôle des naissances et la maîtrise de la natalité est un enjeu fort, bien sûr. En tout cas, il ne s'agit pas non plus de stigmatiser l'être humain en tant que tel, mais pour mieux cacher le mode de développement et le mode de consommation qui, évidemment, a un impact très très élevé. Alors, ensuite, toujours dans ces articles épars, peut-être pour faire un tour d'horizon, qu'est-ce qu'on pourrait piocher dans une actualité riche? Eh bien, tiens, un article de Novetic, tout à fait récent, publié le 2 décembre, signé Anne-Catherine Husson-Traoré, intitulé « Faire tomber les idoles de la tech ». Est-il une première étape pour construire des modèles durables? Elon Musk, Mark Zuckerberg et Jeff Bezos, trois hommes qui valent des milliards, pourtant leur palmarès actuel est plutôt nourri de contre-performances boursières et de brutalité sociale. Elon Musk, avec le rachat de Twitter, est passé du statut de génie visionnaire à patron brutal, virant en une nuit la moitié des salariés de l'entreprise dont il venait de prendre possession. Il s'est rapproché de l'extrême droite américaine et des vérités alternatives et affiche sur son réseau une photo de sa table de nuit où trône un revolver et des canettes vides de soda sans sucre. Cette descente d'image trouve un écho dans la décroissance de l'action de son entreprise emblématique, Tesla, moins 46% de cours de bourse sur un an. Mark Zuckerberg a une image sulfureuse depuis plus longtemps. Les révélations de la lanceuse d'alerte Frances Haugen ont mis à jour la face sombre du réseau d'influence planétaire entre Facebook, mis au service des vérités alternatives qui font basculer les scrutins, de l'Europe au Brésil en passant par les Philippines, et Instagram qui fragilise la génération Z. Le patron de Meta espérait redorer son image avec la grande campagne de promotion lancée dans toute l'Europe en septembre. Message, même si le métavers est virtuel, son impact bienfaiteur pour la santé et l'éducation sera réel. Patatras, l'action de Meta a perdu 61% de sa valeur sur un an et Facebook a annoncé en novembre qu'il allait licencier 11 000 personnes, soit 3% de ses effectifs. Jeff Bezos, de son côté, est arrivé second au classement de pire patron du monde établi par la Conférence syndicale internationale. Les salariés d'Amazon sont le symbole des cadences infernales auxquelles sont soumises les soutiens de l'économie digitale. Et 1% d'entre eux seront bientôt licenciés dans le plus vaste plan social de l'histoire d'Amazon, soit 10 000 personnes. Son cours de bourse, lui, a déjà été divisé par deux ou presque, moins 44% sur un an. Les trois hommes valent toujours des milliards, mais en revanche, les colossaux impacts négatifs, sociaux, environnementaux et éthiques des choix qu'ils font pour leurs entreprises, dont ils gardent le contrôle, viennent contrebalancer le mythe des super-héros venus sauver le monde avec des innovations technologiques. Pour les défenseurs d'une économie basée sur des modèles durables, respectueux de la planète et des humains, il faudrait accélérer le mouvement et faire une croix sur ces idoles aux modèles dépassés. C'est ce que souligne Imagine 2050 dans la conférence que l'organisation a lancée pour les leaders culturels. Elle montre ainsi que ces emblèmes du techno-solutionnisme sont dangereux. C'est aussi la thèse défendue par le film Don't Look Up, grand succès du début 2022 à travers le personnage fictif de Peter Ishawell. Ce génie milliardaire de la tech propose de laisser l'astéroïde qui va détruire la Terre suivre sa trajectoire en promettant de le fracturer avant le choc. Il espère ainsi récupérer les minerais précieux qu'il contient pour les exploiter. Son plan machiavélique va échouer, les humains en paieront le prix. Cette métaphore est importante pour les défenseurs de modèles alternatifs. Imagine 2050 l'utilise entre autres pour ouvrir la réflexion sur des nouveaux écrits capables d'accélérer la transformation de notre société vers des futurs souhaitables. D'autres, comme Aurélien Barraud, aimeraient pulvériser les destructeurs. Dans une conférence Café Frappé donnée à Centrale Supélec le 14 novembre dernier, il a dénoncé le monde d'Elon Musk, précisant, lui qui est astrophysicien, celui où les satellites artificiels trônent dans un ciel dévasté, je le vomis, je l'exècre, pour moi c'est une dystopie absolue. Il a ajouté, je vous rappelle quand même que c'est l'homme qui tente de nous faire croire qu'une automobile de 2 tonnes avec 500 kg de batterie, c'est un objet écologique. Il conclut que le monde selon Musk, c'est aussi celui qui prépare en le testant sur des singes qui pour la plupart meurent dans d'atroces souffrances, des systèmes d'électrodes à implanter dans nos cerveaux de façon à ce que nous puissions jouir d'expériences virtuelles, de balades dans des forêts numériques quand la cible réelle aura été totalement dévastée. Sa conférence devait répondre à la question « a-t-on encore besoin d'ingénieurs ?» La réponse est donc oui bien sûr, mais si l'on veut un monde durable, ils ne doivent pas être inspirés. Par le monde, selon Musk, voilà, bah c'est un article, en tout cas, qui concourt à aussi cette réflexion sur donc la tech, hein, c'est un anglicisme, la technologie salvatrice. Et on peut reprendre le titre du livre de Philippe Biwix, « L'âge des low-tech ». C'est-à-dire, ou aussi avec Ivan Illich, la notion de convivialité de l'outil, hein, c'est-à-dire un développement, en tout cas, d'outils qui restent à la mesure et à la main des humains et qui dont les effets contre-productifs ne sont pas plus importants que les apports et la question de l'outil en général. Derrière cette question, il y a le fait de qu'est-ce qui nous rend finalement, qu'est-ce qui préserve notre humanité à travers ces usages. Et là, très clairement, cette fuite en avant sur le véhicule électrique, sur la soi-disant dématérialisation, hein, qui a un impact de pollution énorme sur la planète, avec toutes ces solutions technologiques, c'est clairement pas la voie à suivre. Et c'est pourtant la voie dans laquelle s'engouffrent bien tous les libéraux, économistes et consorts qui ont des marchés à développer plutôt que des réponses adaptées et compatibles avec la limite de la planète. Voilà. Et puis, pour planter un peu le décor, avant de nous accorder une première pause et une première respiration, je voulais faire un écho sur un article de Reporter du 28 novembre qui nous rappelle que deux glaciers des Pyrénées ont été déclarés morts. Et cite pour cela Ouest France, qui nous dit que deux des neuf glaciers de la région, le Boum et le Portillon, ont été déclarés morts en raison de leur rétrécissement extrême causé par le changement climatique. Ces deux glaciers donc sont sortis de l'inventaire des glaciologues. On ne les mesurera plus, a annoncé donc Pierre René, glaciologue qui les étudie depuis 20 ans. Le Boum s'étendait sur 38 hectares à la fin du 19e siècle. Et est aujourd'hui morcelé en trois zones distinctes. Sa surface atteint à peine 2 hectares. Ses voisins ne sont pas en bien meilleur état. La superficie des 9 glaciers des Pyrénées françaises étudiés par les scientifiques a fondu de moitié en 20 ans, souligne Pierre René. Seuls 62 des 140 hectares glacés recensés en 2000 le sont encore aujourd'hui. Dans une étude récente sur la fonte des glaciers, des scientifiques ont calculé que depuis 1950, les glaciers des Pyrénées ont perdu 90% de leur superficie. Les jours des glaciers des Pyrénées sont comptés, s'alarme le glaciologue dans les colonnes de Ouest-France. On le sait, ils sont les témoins directs du réchauffement climatique. Ce qu'on constate désormais, c'est qu'ils disparaissent plus vite que prévu. Dans les Pyrénées, les températures ont augmenté de 1,2 degré entre 1950 et 2010. À ce rythme, en 2050, tous auront disparu selon les prévisions inquiétantes, en tout cas de la trajectoire de la consommation d'énergie qui émettent des gaz à effet de serre. Voilà, on va s'accorder malgré tout une respiration. On a les yeux bien ouverts sur une réalité qui n'est pas toujours et qui est souvent sombre. Et pour autant, garder les yeux ouverts, ça permet aussi d'affronter la réalité et de ne pas s'illusionner et de s'orienter vers des solutions qui sont plausibles ou en tout cas qui ne vont pas dans un sens du délire que l'on peut avoir avec le tout technologique qui va soi-disant sauver tous les problèmes planétaires. Allez, on se fait cette pause bien méritée et on se retrouve juste après. Vous êtes sur Radio Libertaire 89,4 MHz.
Et nos enfants livides dansent devant nos buffets. Et pourtant, c'est Noël, Noël qu'il faut fêter. Ça se fait chaque année. Oh, et la vie est belle. Oh, et joyeux Noël. Mais voilà la neige qui tombe de tout en haut. Elle a dû se faire mal en tombant de si haut. Courons, courons vers elle, courons, courons avec nos pelles. Courons la ramasser, puisque c'est notre métier. Jolie neige nouvelle, toi qu'arrive du ciel, donne-nous des nouvelles, des choses de ce côté. Dis-nous, dis-nous la belle, dis-nous en vérité, quand est-ce donc à Noël, tomberont de là-haut les dindes de Noël avec leurs dindonneaux, les dindes de Noël. Nos poches retournées. Et pourtant, c'est Noël, Noël qu'il faut fêter. Fêtons, fêtons Noël. Ça se fait chaque année. Oh, et la vie est belle. Oh, et joyeux Noël.
Voilà, c'était Catherine Sauvage qui interprétait Jacques Prévert sur Radio Libertaire 89,4 MHz. C'était le Noël des ramasseurs de neige. Donc par Catherine Sauvage. Et nous reprenons le cours de l'émission Les Manges de Terre avec une page énergie très fournie ce mois-ci avec un décryptage de la COP27. On a parlé tout à l'heure de la COP15 sur la biodiversité qui s'ouvre cette semaine. Un bilan un peu fouillé par le réseau Action Climat France dans un article du 23 novembre suite à la COP27 qui s'est achevée à Sharm el-Sheikh qui devait permettre de répondre aux impacts du changement climatique de plus en plus criants. Et qui nous dit donc le réseau Action Climat France que si la création d'un fonds pour financer les pertes et dommages dans les pays en développement est une énorme avancée, en revanche aucun accord n'a été trouvé sur la sortie des énergies fossiles. Donc, commencer par une nouvelle plutôt positive. Cette COP s'est déroulée en Afrique, un continent particulièrement touché par les impacts du changement climatique, alors qu'il est responsable de moins de 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, nous dit le réseau Action Climat France. Et pour une fois, il s'agissait de mettre à l'agenda les priorités des pays en développement. Alors, je fais une incise, cette notion, on peut la contester. En tout cas, si le développement... Il s'agit de suivre le modèle des pays occidentaux qui, finalement, plus ils délocalisent, moins ils polluent. Hein, c'est un peu ça le principe. Je ferme cette parenthèse. Il s'agissait donc de mettre à l'agenda les priorités des pays en développement, notamment une question mise sur la table il y a plus de 30 ans par les petits États insulaires et qui avait jusque-là fait l'objet d'un blocage complet des pays dits développés, celle du financement des pertes et dommages. Ce sont les impacts irréversibles du changement climatique liés aux inondations ou cyclones meurtriers, à l'inéluctable montée du niveau des mers, etc. La plupart des pays en développement n'ont pas les moyens de reconstruire les infrastructures, de dédommager les populations touchées et de les reloger correctement. Pourtant, ils ne sont pas responsables de la crise climatique, étant très peu pollueurs par rapport aux pays du Nord, comme ceux de l'Union européenne ou les États-Unis. C'est donc un enjeu de justice climatique que de sécuriser un appui des pays développés pour aider ceux du Sud à se reconstruire et d'appuyer les communautés dont le quotidien a été bouleversé à rebâtir une vie dans des conditions décentes. Après de longues tergiversations, on a vu un progrès notable, nous dit le réseau Action Climat France. Enfin, les pays développés ont reconnu la nécessité de financer les pertes et dommages. La politique de l'Autriche est terminée, l'Union européenne a même été force de proposition et a changé de position depuis la COP26, donc la dernière COP. Après des négociations houleuses, notamment sur la question de l'équité, qui doit contribuer à ce fonds, les pays développés ont fini par adopter la proposition des pays en développement, donc dit en développement, je rajoute des guillemets, hein, vous l'avez compris. Les pays devront maintenant s'atteler à définir les fonctions de ce fonds, où trouver l'argent pour l'abonder et comment s'assurer que l'argent soit alloué aux populations qui en ont le plus besoin. Autre bonne nouvelle, les États ont trouvé un accord pour rendre opérationnel dès 2023 le réseau de Santiago sur les pertes et dommages créé à Madrid en 2019, qui a pour rôle de fournir une assistance technique aux pays vulnérables afin qu'ils puissent évaluer et chiffrer leurs besoins en pertes et dommages et identifier le type d'intervention nécessaire pour y répondre. Le réseau de Santiago étant une pièce maîtresse du puzzle pour une réponse efficace aux pertes et dommages. Reste maintenant aux pays riches à garantir une mise en route efficace de cet outil dans les meilleurs délais à l'aide de contributions financières, car les quelques dizaines de millions promis jusque-là, notamment par plusieurs pays européens, ne seront pas suffisants. Allez, je fais un petit commentaire en disant que là, on est vraiment très à minima hein, sur cette nouvelle positive, à savoir que, encore une fois, il est question de solutionner par l'argent et on sait très bien que les promesses tardent à arriver, surtout dans la politique internationale, et ensuite on est vraiment dans la phase a posteriori, c'est-à-dire réparation des dommages, hein, alors que bien sûr la base c'est l'intervention préventive, mais bon, voilà, on souligne, en tout cas le réseau Action Climat France souligne cela comme une avancée, en tout cas, de dédommagement et de reconnaissance de l'impact des pays du Nord, notamment, et on le dit souvent dans cette émission, que le fait que eh bien, l'empreinte écologique est un modèle beaucoup plus juste que l'évaluation internationale des émissions de gaz à effet de serre, puisque l'empreinte écologique impute aux pays consommateurs l'impact environnemental. Hein, très, très souvent, on entend la Chine est le plus gros pollueur. Mais si on impute aux pays consommateurs des produits qui sont faits en Chine, eh bien, on peut enlever, je n'ai plus les chiffres en tête, mais je crois au moins un bon tiers de la pollution chinoise. Et encore, faut-il rapporter tout cela à la population, bien sûr. Allez, je reprends le bilan qui est fait. Donc, le réseau Action Climat France nous dit que la COP27 a cruellement manqué de résultats concrets sur la finance pour l'adaptation et l'atténuation des effets du changement climatique dans les pays en développement, dits en développement. Pourtant, l'adaptation était une des priorités affichées par la présidence égyptienne, et l'an dernier, les pays dits développés s'étaient engagés à doubler la finance pour l'adaptation d'ici à 2025. La COP27 aurait dû fixer une feuille de route claire pour atteindre l'objectif, ce qui n'a pas été le cas. Et plus décevant encore, selon le réseau Action Climat France, les pays riches n'ont toujours pas honoré leur engagement pris en 2009 de fournir 100 milliards de dollars par an à partir de 2020 aux pays dits en développement. Les sommes ne sont pas livrées intégralement, 83 milliards en 2020, et le sont essentiellement sous forme de prêts à rembourser. La COP27 n'a pas apporté la garantie que la promesse serait enfin tenue. Donc voilà pour les aspects financiers. En tout cas de l'aide directe, on va dire. Maintenant, sur les aspects négatifs, les énergies fossiles restent un sujet tabou. Peu de progrès ont été réalisés sur les causes du changement climatique. Si quelques pays ont poussé pour la sortie de toutes les énergies fossiles, donc des pays ont poussé pour que la sortie de toutes les énergies fossiles figure dans le texte final, d'autres pays y étaient fortement opposés. Avec la présence en masse des lobbies des entreprises fossiles et une présence égyptienne qui leur a déroulé le tapis rouge, ce qui n'a pas contribué à porter ce sujet sur le devant de la scène. Résultat, aucun progrès sur le front de la réduction des émissions par rapport à la précédente COP de Glasgow. Il est pourtant nécessaire, nous dit le réseau Action Climat France, de sortir le plus rapidement des énergies fossiles pour pouvoir respecter l'accord de Paris et limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degré depuis la période pré-industrielle. Mais ce sujet reste épineux, c'est le moins qu'on puisse dire. Dans d'autres aspects, eh bien, le réseau Action Climat fait également nous parle des marchés carbone et de l'agriculture, en pointant de fausses solutions qui ont été proposées à la place de transformations nécessaires, et en visant le fameux article 6 qui se charge de mettre en place l'opérationnalisation des marchés carbone. Ce sujet a très peu avancé. En effet, les règles de mise en œuvre de ces marchés restent peu claires, alors qu'ils ne sont pas encadrés et qu'ils peuvent mener à des projets néfastes pour la biodiversité locale et entraîner des violations de droits humains de communautés locales ou de peuples autochtones. Typiquement, on retrouve le plus souvent des projets de plantation d'arbres pour permettre aux pays, mais aussi aux entreprises, de compenser leurs émissions. Au-delà du fait que ces plantations sont trop souvent en monoculture et peuvent entraîner des expulsions ou d'autres violations pour les populations locales, ils détournent les pollueurs d'avant tout réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Il est urgent que cet article gagne en règles de mise en œuvre robustes et en garde-fous stricts pour les droits humains. Et malheureusement, la COP27 n'y est pas parvenue. Les textes adoptés n'assurent pas la protection des droits humains et introduisent des failles qui pourraient remettre en cause l'intégrité environnementale de l'accord de Paris. Petit commentaire de ma part, effectivement, on a ce qu'on appelle la compensation et on s'achète une bonne conscience, finalement, en disant on détruit ici, mais on va compenser ailleurs, et n'importe comment, et en monoculture, et bien en expropriant les populations autochtones. Et dans des conditions absolument pas contrôlées, donc c'est ça un peu le cycle infernal qui n'est pas enrayé en tout cas par la COP27. Je reprends le communiqué du réseau Action Climat France qui nous dit que les négociations du programme de Corenivia sur l'agriculture se sont clôturées et les discussions ont été prolongées sous la forme d'un programme de travail de 4 ans pour la mise en place de l'action climatique en agriculture et pour la sécurité alimentaire. Malgré une reconnaissance du rôle des agriculteurs et agricultrices à petite échelle et des savoirs des peuples autochtones, l'impulsion politique est insuffisante pour transformer les systèmes alimentaires. Les pays ont manqué l'opportunité d'orienter leur futur programme de travail vers l'agroécologie et de l'élargir en intégrant la notion de système alimentaire qui permettait de prendre en compte tous les aspects entrant en jeu dans l'alimentation, comme les enjeux de consommation et de gaspillage alimentaire. Par ailleurs, en dehors des négociations officielles, ce sont les solutions marchandes et basées sur les nouvelles technologies qui ont le vent en poupe. Drones et intelligence artificielle en agriculture, le tout accompagné de crédits carbone, ont occupé la journée thématique sur l'agriculture et l'adaptation. Ces approches, souvent qualifiées d'intelligentes face au climat, entre guillemets, ne correspondent pas aux besoins et priorités des paysans et paysannes dans les pays en développement et vont souvent à l'encontre des droits paysans et d'autres personnes vivant en zone rurale, c'est le moins qu'on puisse dire. Le réseau Action Climat France pointe également que la biodiversité est la grande absence de la COP27. Pourtant, ces crises du climat et de la biodiversité sont liées. Sans écosystème sain et protégé, impossible de rester sous les 1,5 degrés de réchauffement global. Sans réduction drastique des émissions, impossible de protéger notre biodiversité. Fort des données scientifiques apportées par les experts de l'IPBES, on en parlait tout à l'heure dans l'article du Canard, et du GIEC, donc son homologue, version biodiversité, sur les liens entre climat et biodiversité, ce lien intrinsèque a été reconnu dans le texte final de la COP pour la première fois à la COP26, donc la précédente, à Glasgow. Pour cette année, la COP27, la société civile attendait de voir dans le texte final un appel à adopter un accord mondial ambitieux pour protéger et restaurer la biodiversité tout en assurant des projets respectueux des communautés vivant dans ces précieux écosystèmes, comme l'Amazonie par exemple, et les peuples autochtones. Or, le texte final n'a fait aucune référence à la COP15 sur la biodiversité, qui se tient donc cette semaine à Montréal, pour augmenter l'ambition politique des États dans ce domaine au travers d'un accord jumeau de l'accord de Paris sur le climat. Encore une occasion manquée pour les délégations de se mobiliser à la fois sur le climat et la biodiversité. Sans ce signal politique, la COP27 prive la COP15, donc biodiversité, d'un engagement politique dont elle aura grandement besoin pour répondre à l'urgence de protéger nos écosystèmes. Et l'article se termine vers une projection sur la COP28 qui aura lieu à Dubaï en novembre 2023 avec la tenue pour la première fois du bilan mondial, le mécanisme d'évaluation de l'accord de Paris. Ce bilan doit avoir un impact concret puisqu'il va recommander aux États des priorités à considérer pour leurs prochains objectifs climatiques afin de faire mieux sur la réduction des émissions, l'adaptation, les pertes et dommages et tous les piliers de l'accord de Paris. La sortie des énergies fossiles de manière équitable devra également de nouveau figurer dans les discussions à Dubaï, même si la présidence émiratie portera probablement davantage sur la promotion de fausses solutions plutôt que sur la réduction effective de nos émissions de gaz à effet de serre. Il va donc falloir continuer à faire monter ce sujet. Le combat continue, c'est le moins qu'on puisse dire, conclut le réseau Action Climat France. Voilà, donc on le voit, beaucoup de bureaucratie, technocratie, avec un résultat quasiment nul, pour ne pas dire un quasi zéro pointé dans ces instances de négociation internationale qui n'attaquent pas, évidemment, l'enjeu majeur et numéro un, qui est celui de la production et du contrôle de la production et de l'orientation de cette production, non pas au bénéfice de des financeurs hein, de l'économie, mais au bénéfice de toute la population et des travailleurs et travailleuses de ces secteurs dans une logique eh bien, où on s'intéresse à la finalité de ce qui est produit et dans une logique bien sûr de service un peu plus large que bien, celui de s'en mettre plein les poches. Après cet aperçu international un peu déprimant, un petit point avec Novetic dans un article du 22 novembre sur les perspectives, les risques de tension sur le réseau électrique avec un point qui est fait énergie par énergie puisque le gestionnaire du réseau électrique RTE, donc en France, a actualisé ses prévisions pour l'hiver et estime que c'est désormais le mois de janvier qui concentre le plus de risques en raison de la réévaluation à la baisse de la production d'électricité nucléaire. Si dans la très grande majorité des situations, RTE n'envisage que quelques signaux éco-watts rouges, donc c'est-à-dire de risque de tension ou de coupure, le risque de coupure ne peut pas être totalement exclu, indique donc RTE. Un tableau de bord de suivi de la consommation d'électricité corrigé des variations météorologiques est publié toutes les semaines depuis la mi-octobre. Il mesure que la baisse de consommation atteint 5 à 7% sur la période allant de début octobre à mi-novembre par rapport à la moyenne observée entre 2014 et 2019. Donc Novetic fait le point sur les différentes sources d'énergie sur la base du rapport d'RTE. Alors sur le nucléaire, eh bien, la disponibilité du parc nucléaire français constitue pour les prochains mois le facteur clé de la sécurité d'alimentation en France selon RTE. Le rythme de remise en service des réacteurs actuellement à l'arrêt dans le cadre des maintenances programmées ou du programme spécifique à la surveillance et la réparation du défaut de corrosion sous contrainte est donc crucial donc, selon RTE. Les dernières prévisions réévaluent à la baisse la production nucléaire. La disponibilité du parc devrait atteindre de l'ordre de 40 gigawatts au début du mois de janvier, avec un écart de moins 3 gigawatts par rapport aux prévisions précédentes. Selon RTE, mi-novembre, la disponibilité atteint environ 31 gigawatts, soit plus de 10 gigawatts en dessous des minima historiques en cette période de l'année. Donc on voit, commentaire de ma part, on voit eh bien, un parc nucléaire significativement handicapé, en tout cas en cette période. Et ben, ce qui nous voilà, fait écho aussi à tout ce discours sur le nucléaire, c'est la sécurité d'approvisionnement. On voit le résultat, en tout cas on en mesure le résultat concret aujourd'hui. Alors on a parlé du nucléaire. Sur le gaz, le remplissage des stocks de gaz en France et en Europe a atteint des niveaux extrêmement élevés. Pour les prochains mois, les sources d'approvisionnement se diversifient pour remplacer les importations de gaz russe, et c'est vers le gaz naturel liquéfié, donc GNL, que se tourne l'Europe. Mais selon l'Agence internationale de l'énergie, si l'approvisionnement russe est complètement coupé et si les importations chinoises de GNL, donc gaz naturel liquéfié, reprennent à leur niveau de 2021, les stockages seraient remplis à moins de 20% en février, en supposant un niveau élevé d'approvisionnement en GNL, et à près de 5% en cas de faible approvisionnement en GNL, prévient donc l'Agence internationale de l'énergie. Donc ça veut dire que les niveaux diminueraient très très fortement arrivés en fin d'hiver. Donc les scénarios, en tout cas pour le gaz, nous dit que dans le scénario, on va dire, pessimiste, on serait plus qu'à 5% des réserves à fin février. Donc voilà, une fonte des stocks à de tels niveaux augmenterait le risque de rupture d'approvisionnement en cas de vague de froid tardive, insiste l'Agence internationale de l'énergie dans son communiqué. Pour conjurer ce scénario, l'AIE estime que l'Europe devra observer des mesures d'économie cruciales pour maintenir les stocks à des niveaux adéquats jusqu'à la fin de la saison de chauffage. Donc sur le charbon, eh bien une centrale à charbon à Saint-Avold, donc c'est en Moselle, qui a été officiellement fermé le 31 mars 2022, a rouvert le 1er octobre à titre conservatoire et compte tenu de la situation ukrainienne, a précisé le ministère de la Transition énergétique. Cette centrale a produit de l'électricité ces derniers jours et sera disponible pour la suite de l'hiver. La France n'en a donc pas tout à fait fini avec le charbon, énergie la plus polluante, malgré la promesse d'Emmanuel Macron de fermer toutes les centrales au cours de son premier quinquennat. Côté énergie hydraulique, de mémoire qui représente entre 15 et 20% de l'énergie disponible, et bien alors que la sécheresse avait fortement dégradé la constitution des stocks hydrauliques au cours de l'été, avec des niveaux historiquement bas, moins 10% par rapport au minimum des dernières années, la tendance s'est inversée. Les stocks ont retrouvé au cours des dernières semaines des niveaux de remplissage satisfaisants, proche des niveaux historiquement observés. Le bon niveau de remplissage des barrages a été favorisé par des conditions climatiques du début d'automne, par des apports pluviométriques plus importants et des températures élevées conduisant à la moindre sollicitation des barrages pour assurer l'équilibre entre offre et demande. En France, l'hydroélectricité couvre environ 10% de l'électricité consommée. C'est moins donc que ce que je venais de dire. C'est la première source d'électricité renouvelable et la deuxième source d'électricité après le nucléaire qui est désormais à 68% de proportion. Alors que ces niveaux historiques ont atteint jusqu'à 80% de mémoire encore. Enfin, dans le chapitre des énergies renouvelables, donc il y a un examen de projet de loi en cours qui a été adopté au Sénat début novembre et vise à rattraper le retard de la France en matière d'éolien et de solaire en levant, en citation, les verrous administratifs et procédures pour diviser par deux le délai de déploiement des projets, a décrit la ministre de la Transition énergétique devant les députés. Le texte est donc bien en cours d'examen aujourd'hui à l'Assemblée. Vous avez sans doute pu entendre différents reportages sur le sujet. Avant, un autre texte sur le nucléaire annoncé dans les mois qui viennent. Et on reviendra sur ce sujet un petit peu plus loin. Alors, sur les coupures d'électricité, Reporter, dans un article du 2 décembre, est un petit peu plus précis. Qui nous dit que pour la première fois cet hiver, nous pourrions avoir des coupures d'électricité imposées et que la Première ministre a envoyé, donc samedi 3 décembre, une circulaire demandant au préfet de se préparer à une telle situation, selon des informations diffusées par Europe 1. Près de 60% de la population pourrait être concernée. Et Reporter, donc le site, se demande pourquoi nous en sommes arrivés là. Eh bien, le 18 novembre dernier, le gestionnaire, donc RTE, avait alerté sur un risque élevé de tension en janvier. En effet, donc on vient de le voir, presque la moitié du parc nucléaire, soit 23 réacteurs, est encore à l'arrêt. Le calendrier de maintenance du parc nucléaire est très chargé, en conséquence des retards pris pendant la pandémie et plusieurs cas de fissures relevées sur des circuits essentiels au fonctionnement des centrales. L'hiver dernier, il y avait 17 réacteurs inactifs sans qu'il y ait eu de coupure. Là, désormais, c'est 23. Selon la circulaire du gouvernement, donc près de 60% de la population française pourrait subir des coupures d'électricité. Seuls les clients prioritaires seront épargnés. 14 000 sites ont été définis, gendarmerie, caserne de pompiers, commissariat, hôpitaux et certains sites industriels. Cette liste confidentielle sera établie par les préfets. Seuls les foyers qui se trouvent sur la même ligne électrique que les clients prioritaires seront épargnés. Mais d'autres exceptions sont-elles à prévoir ? S'interroge Reporter. Qu'en sera-t-il par exemple des feux de circulation ? De la circulation des trains, des remontées mécaniques dans les stations de ski. Des situations pour l'instant réglées au cas par cas. Alors comment ça va se passer? Les coupures sont décidées par RTE uniquement si les mesures de sobriété ne sont pas efficaces. Je fais une petite parenthèse quand même. Les mesures de sobriété seront-elles efficaces? En tout cas, notre société, la société de consommation, n'est évidemment pas construite sur la sobriété. Hein. Plus je pollue, plus je casse, plus je détruis, plus je m'enrichis. Hein. C'est ça le modèle capitaliste de notre développement. Je ferme la parenthèse. Donc, enjeu, extrêmement fort, et même qui va à contrario, à rebours du modèle économique. Donc, l'enjeu de sobriété. Je reprends l'article de Reporter. La demande de délestage sera envoyée à Enedis, qui coupera l'électricité aux heures de pointe. Le matin entre 8h et 13h et le soir entre 18h et 20h. Le blackout durera 2 heures d'affilée au maximum. Qui aura la malchance ou la chance de devoir dîner à la bougie, cela n'a pas encore été décidé. Il s'agira de coupures tournantes appliquées sur l'ensemble du territoire, explique Enedis, sans pouvoir préciser quel territoire sera plongé dans le noir. Ces coupures nous priveront d'Internet, de téléphone. En effet, les antennes relais des opérateurs téléphoniques ne sont pas considérées comme des clients prioritaires dans la liste définie conformément à l'arrêté du 5 juillet 1990. À l'époque, les réseaux mobiles n'étaient pas identifiés comme prioritaires, explique-t-on chez Orange. Mais les préfets pourraient faire remonter certains sites dans la liste. Le résultat pourrait être inégal selon les régions. Plus grave, les numéros d'urgence pourraient ne plus fonctionner, s'est alarmée Christelle Edman, la directrice générale d'Orange, devant la commission des affaires économiques du Sénat. Seul le 112, donc le numéro 112 européen, resterait accessible quel que soit l'opérateur. Mais si vous êtes dans une zone où absolument toutes les antennes sont déconnectées, vous ne pourrez pas joindre les secours. Si certaines antennes disposent de batteries, leur autonomie demeure limitée, entre 30 minutes et 1 heure pour celles d'Orange. Une fois l'électricité revenue, il faudra parfois l'intervention d'un technicien pour relancer l'antenne. La durée de coupure pourrait donc largement dépasser les 2 heures promises. Enfin, dernière question de Reporter. Porter des cols roulés suffira-t-il pour éviter les coupures? Ça fait des semaines que le gouvernement multiplie les appels à la sobriété, espérant que ça soit suffisant pour éviter les délestages. Alors, je refais encore une incise sur le fait qu'on a affaire là, bien sûr, à des convaincus de la dernière heure de l'écologie. C'est uniquement parce qu'il y a une crise énergétique qu'on ose prononcer ce qui était auparavant avant un gros mot de sobriété, souvenons-nous des sorties du président de la République sur les Amish, ces moqueries sur le retour à la bougie. Eh bien, voilà, maintenant, on est obligé d'employer ce mot, mais tout en disant que c'est pas de la décroissance, c'est vrai qu'il faut pas du tout confondre, alors que le concept, en tout cas, se nourrit l'un de l'autre, bien sûr. Le gouvernement multiplie les appels à la sobriété, espérant que ça soit suffisant pour éviter les délestages. Jusqu'à la dernière seconde, si tous les Français font des éco-gestes, il n'y aura pas de coupure, a affirmé sur France Info Xavier Piechassic, le président du directoire de RTE. Pour mieux informer les consommateurs sur l'état du réseau, le gestionnaire d'électricité a lancé une application baptisée EcoWatt, une sorte de plateforme météo de l'électricité qui propose un système d'alerte en cas de coupure, qui a été téléchargé 300 000 fois, un chiffre qui reste insuffisant au regard de la population concernée, des 12 millions de Français déjà confrontés à la précarité énergétique. Mais surtout, ce système exclut celles et ceux qui n'ont pas de smartphone, comme le rappelle Nadia Ziane de l'association Famille Rurale. 14 millions de ménages en situation d'électronisme, donc un terme qui signifie ne pas maîtriser l'usage, en tout cas des outils de communication électronique. Donc 14 millions de ménages en situation d'électronisme n'auront pas accès à ces informations. De plus, il s'agit à nouveau d'une numérisation d'un système d'alerte. Que fait-on face à toute cette population qui ne sait pas l'utiliser? Voilà, et là on a, donc l'article se termine comme ça, on a un sujet majeur auquel on est confronté dans les services publics, dans le recours au droit notamment, c'est-à-dire cette numérisation à outrance qui complexifie considérablement l'accès, et en réalité qui est une déshumanisation, qui est un point de vue finalement uniquement de gestionnaire, c'est-à-dire l'économie des coûts de gestion, mais en réalité certainement pas une approche de service public avec une finalité d'un service rendu à toute personne, indépendamment de sa capacité à payer. Voilà où on en est, et c'est évidemment sur le terrain des luttes sociales et sur le terrain notamment syndical qu'il nous faut, et pas seulement associatif aussi, qu'il nous faut réapprendre et entretenir justement toutes ces eh bien cette histoire et ce fonctionnement surtout qui nous permettent de nous intéresser et de partir du besoin des plus démunis et d'y apporter une solution indépendamment de la rentabilité en capital. Et c'est en entretenant déjà cette culture, en la développant de proche en proche, qu'on peut aussi bien créer des pôles à partir desquels peuvent se reconstruire de vraies alternatives et en tout cas leur donner l'ampleur nécessaire. Voilà, je reprends avec peut-être Il y a encore beaucoup d'articles. Bah, écoutez, on va peut-être se faire une pause quand même musicale. Hein, avec, je voulais faire un écho à un superbe album qui est sorti tout à fait récemment, qui n'est pas des plus joyeux, mais en tout cas qui est d'une ambiance très très pénétrante, je trouve. C'est l'album de Denès Prigent. Avec bien, nous allons tout de suite donc le titre de son CD, en tout cas qui vient de sortir en 2022, c'est Une mer de larmes, en breton, Urmor à Zailou. Je ne sais pas si je prononce bien, en tout cas on va se faire cette pause musicale bien méritée et on se retrouve juste après. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Libertaire sur 89,4 MHz.
Ne sforza nave la gargla, ne sforza nave la gargla, le Ready?
Oh no.
Kananaran, issu du dernier album de Denis Prigent. Je vais quand même vous lire la traduction puisqu'il n'y a que 6 phrases de la chanson que nous venons d'entendre. Peu importe le vent et la pluie, mon feu brûle toujours, ma voix brille encore, il n'est pas un jour sans que je chante. Peu importe les tourments de la vie, je chante l'amour. Voilà, on reprend le cours de l'émission Les Manges de Terre. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Libertaire sur 89,4 MHz. Et nous étions dans le chapitre lourd, le dossier lourd de l'énergie. Beaucoup d'informations dans le mois écoulé. Et celle-ci, je m'appuie sur un article de Novetic publié le 25 novembre, un article de Concepcion Alvarez qui revient sur le retard de la France sur les énergies renouvelables qui va lui coûter plusieurs centaines de millions d'euros. En 2020, la France était donc le seul pays européen à ne pas avoir rempli ses objectifs en matière d'énergie renouvelable, atteignant péniblement le seuil de 19% de renouvelables dans son mix énergétique au lieu de 23%. Le problème, c'est que ces objectifs sont contraignants. La France est donc tenue de rattraper en quelque sorte cet écart qui représenterait 63 TWh en rachetant aux bons élèves de l'Union européenne leur surplus. La France est donc en négociation pour acheter des mégawatts statistiques à l'Italie et la Suède, a précisé la ministre de la Transition énergétique devant les députés réunis en commission le lundi 21 novembre. La somme de 500 millions d'euros avait été évoquée par la ministre lors du colloque annuel des syndicats, du syndicat des énergies renouvelables, SER, fin septembre. Selon son entourage, cité par Le Monde, le montant final n'est pas encore confirmé, mais serait de l'ordre de quelques centaines de millions d'euros. Le cas échéant, si ces discussions n'aboutissaient pas, une amende pourrait être prononcée. Et malgré cette épée de Damoclès qui pèse sur la France, le pays n'est toujours pas sur la bonne trajectoire en matière de renouvelables. Selon de nouvelles données publiées vendredi 25 novembre, au troisième trimestre 2022, le parc éolien français atteignait une puissance de 20,4 gigawatts. L'objectif du pays est d'atteindre 24,1 gigawatts d'électricité éolienne d'ici fin 2023. Du côté du solaire photovoltaïque, la puissance atteint 15,8 gigawatts contre un objectif de 20,1 à fin 2023. Les écarts à combler restent donc importants. Pour y arriver, le gouvernement porte un projet de loi d'accélération des énergies renouvelables qui arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale. En première lecture début octobre, le Sénat a largement adopté le texte et a finalement renoncé à un droit de veto des maires sur l'implantation d'énergies renouvelables au profit d'un dispositif plus global reposant sur le choix par les communes de zones propices, entre guillemets, à l'installation de renouvelables. La disposition prévoyant d'introduire une distance minimale de 40 km des côtes pour un projet éolien en mer a été également supprimée. En février dernier, dans son discours de Belfort, Emmanuel Macron avait fixé l'objectif d'installer une cinquantaine de parcs éoliens offshore en France d'ici à 2050. Le chef de l'État a en revanche mis le frein sur l'éolien terrestre avec un doublement de la capacité actuelle, non plus sur 10 mais 30 ans. Il a aussi annoncé la multiplication par 10 de la puissance solaire installée d'ici à 2050 et une relance du nucléaire avec la construction de 6 réacteurs EPR2 à l'horizon 2035. Donc voilà à peu près où on en est. En tout cas, sur les énergies renouvelables, il y a les discours, il y a la communication gouvernementale, celle qu'on a pu voir aussi le mois dernier sur MaPrimeRénov', avec bien un rythme, en tout cas, de financement des rénovations thermiques bien qui nécessitera tout simplement une centaine d'années pour résorber toutes les passoires thermiques, donc qui est très clairement insuffisant, mais qui n'empêche pas le gouvernement, en tout cas, de se gargariser de millions de citoyens qui ont recouru à cette prime qui ne finance, on l'a vu, dans un grand nombre de cas, que finalement le changement d'un système de chauffage et ne s'attaque pas à la racine et à la prévention des trous, en tout cas de la perméabilité aux températures hautes et basses des logements. Voilà, donc la communication gouvernementale, c'est une chose. la réalité, c'en est une autre, et en tout cas, cette trajectoire, elle est bien mesurée. Alors, sur le problème et cette question des énergies renouvelables, et plus particulièrement de l'éolien, une information qui m'a semblé intéressante avec France Nature Environnement, donc publiée le 30 novembre, et qui revient sur la Cour de cassation qui a condamné EDF pour destruction d'oiseaux menacés, et qui illustre, à mon sens, bien la problématique, en tout cas, sur ces questions. Puisque, en effet, depuis leur mise en service, les 31 éoliennes exploitées par les filiales du groupe EDF sur le Causse d'Omela, dans l'Hérault, détruisent en quantité des faucons cresserellettes, alors que cette espèce d'oiseau protégé justifie le classement de ce causse dans le réseau européen Natura 2000. Après 10 ans de combats juridiques, la Cour de cassation confirme que ces destructions sont illégales. À travers cette importante jurisprudence, c'est toute la doctrine construite par la filière éolienne et le ministère de l'Environnement concernant les destructions d'espèces protégées par les éoliennes qui est remise en cause. Le faucon cresserellette est un petit rapace vivant en colonie qui a frôlé l'extinction en France dans les années 80. Grâce aux efforts des associations de protection de la nature et à un plan national d'action financé par le ministère de la Transition écologique, cette espèce est actuellement en cours de rémission démographique, même si elle reste classée sur la liste des espèces en danger d'extinction en France, avec seulement 3 noyaux de population. C'est notamment en raison de la présence de la principale colonie française de cette espèce que les collines qui accueillent les éoliennes d'Omela sont classées Natura 2000. Depuis 10 ans, parmi les 30 espèces protégées impactées par les éoliennes d'Omela, ou d'Omelas, je ne sais pas comment on prononce, une 60aine de spécimens de faucons cresserellettes ont été retrouvés morts au pied des éoliennes de ce parc. Selon le bilan du parc naturel, pour cette espèce, les 60 spécimens ne constituent que la part visible de la mortalité causée par le parc, qui est estimée au triple. Compte tenu de ces chiffres, les responsables de ce plan considèrent que la principale menace qui pèse sur la population héraultaise de faucons cresserellettes est le parc éolien d'Omelas. La Cour de cassation rappelle que la destruction d'un seul individu d'une espèce protégée par une éolienne est interdite par la loi et que les promoteurs éoliens, même liés à EDF, doivent respecter cette interdiction. Elle rappelle que sous certaines conditions strictes, tenant notamment à l'objectif de maintenir les populations d'espèces protégées, la loi autorise le préfet à délivrer des dérogations permettant de détruire des espèces protégées. Mais depuis 2010 et les premières découvertes de mortalité d'oiseaux protégés, les sociétés filiales d'EDF se refusent avec constance à présenter une telle demande de dérogation au préfet de l'Hérault. Ces sociétés estiment à tort qu'elles ne sont pas soumises à l'interdiction de détruire des espèces protégées qui concernent pourtant toutes les activités et est une exigence du droit européen. Cette exploitation illégale perdure depuis des années avec la complicité de la préfecture de l'Hérault et du ministère de l'Environnement qui, malgré le constat de mortalité d'oiseaux importante, répétée et prévisible, refuse toujours de faire respecter le droit des espèces protégées. L'indulgence persistante de l'État à l'égard de ce parc éolien, exceptionnel tant par son environnement que par ses impacts, est d'autant plus surprenante qu'en janvier 2020, la DREAL avait rédigé un rapport en manquement concluant à la nécessité de suspendre l'exploitation des éoliennes pendant la période de présence des faucons cresserellettes. Il n'avait pas été suivi d'effet. In fine, la Cour de cassation vient de remettre en question la doctrine du ministère de l'Environnement, élaborée main dans la main avec l'industrie éolienne, qui consiste à contourner les lois de protection de la biodiversité au prétexte dévoyé de la transition énergétique, alors que l'un ne peut et ne doit pas aller sans l'autre. La transition écologique ne peut pas se résumer à une politique du chiffre en matière de production énergétique. Pour Simon Poppy, président de France Nature Environnement Languedoc-Roussillon, l'érosion continue de la biodiversité de notre pays tient en partie aux carences substantielles de l'État dans l'application des législations protectrices des espèces menacées et à l'irresponsabilité de certains des plus grands opérateurs économiques de notre pays comme EDF. Une infrastructure de production d'énergie renouvelable ne peut pas se prétendre écologique si elle ne respecte pas le droit de l'environnement. Si l'administration n'est pas capable de faire respecter ce droit dans un cas aussi extrême, à quoi sert-elle? Certains parcs ont été construits au mauvais endroit, de telles erreurs doivent pouvoir aussi être corrigées. Nous sommes convaincus que sur le long terme, l'entêtement d'EDF et de l'État sur un cas extrême fait plus de mal que de bien à la filière éolienne, et nous sommes soulagés qu'au bout de 10 ans de combat, le sens de la loi soit enfin rappelé. Aujourd'hui, nous demandons l'arrêt des éoliennes d'Omelas pendant la période de présence des faucons cresserellettes et nous exigeons que le causse d'Omelas soit sorti des zones favorables à l'éolien dans la nouvelle planification régionale de l'éolien qui est en cours d'élaboration. Pour Jean-David Abel, pilote du réseau Biodiversité de France Nature Environnement, cette décision renforce la légitimité de notre proposition de création d'un observatoire dédié à la compilation de connaissances sur les enjeux liant les énergies renouvelables et la biodiversité terrestre, à l'image de l'Observatoire national de l'éolien en mer créé l'année dernière. Cet observatoire rassemblant des données de terrain en situations variées devra contribuer à nourrir les démarches de planification du développement des énergies renouvelables terrestres et à définir les bonnes pratiques indispensables pour définir les sites d'implantation et éviter des situations catastrophiques comme à Omelas. Voilà, on a un article intéressant pour montrer qu'il ne s'agit pas seulement de se cibler sur des objectifs quantitatifs, mais que tout cela a évidemment un impact, notamment quand on croit investir les espaces naturels pour y développer des éoliennes. Voilà. Et donc, alors si on va au bout de la réflexion, et bien on se dit qu'il y a aussi une contrainte sur le développement des énergies renouvelables et qu'encore une fois, la notion de sobriété, mais une sobriété organisée et non une sobriété subie, est vraiment une question centrale et une question économique centrale. Je voulais aussi faire un écho d'un communiqué des Amis de la Terre qui nous dit que, bien, alors que l'hiver arrive, l'hiver se prépare à l'aune de la crise des prix de l'énergie. Les Amis de la Terre donc publient une tribune co-signée avec d'autres associations et collectifs, dont Emmaüs, collectif Les Morts de la Rue, Leclerc donc sur le réseau pour la transition énergétique, différents intervenants en résumé dans les champs sociaux et environnementaux, afin de faire de la lutte contre la précarité énergétique une des priorités du gouvernement. À l'heure où le gouvernement demande de baisser le chauffage à 19 degrés pour limiter nos consommations d'énergie, ce dernier a fait annuler par le biais d'un énième article 49.3 deux amendements nécessaires qui avaient été votés par les députés de gauche et de droite en faveur de l'accélération de la rénovation thermique. À la place, 100 millions d'euros seulement seront ajoutés au budget 2023 pour cette politique qui devrait être la grande priorité du pays. Cette décision incohérente intervient sur fond de crise majeure de l'énergie et alors que 12 millions de personnes en France souffrent de précarité énergétique. Parce qu'elles éprouvent des difficultés à maintenir une température acceptable dans leur logement et à faire face au coût des factures qui continuent d'augmenter, beaucoup souffrent des conséquences sur leur santé, vivent sous la menace de coupures d'électricité pour impayés ou sont amenés à devoir choisir entre se nourrir et se chauffer. En 2017, le gouvernement s'était engagé à rénover toutes les passoires thermiques en 10 ans. En 2022, il en reste toujours près de 5,2 millions. Pour venir à bout de ces logements énergivores et indignes, nous devrions atteindre 700 000 rénovations globales par an. Or, le compte n'y est pas, entre parenthèses, on l'évoquait tout à l'heure. Si la priorité est aux économies d'énergie, alors pourquoi aller à l'encontre du grand chantier de la rénovation quand le secteur du bâtiment représente près de 20% des émissions de gaz à effet de serre du pays ? Avec 86% des travaux qui ne concernent que de simples gestes de rénovation, comme changer les fenêtres ou la chaudière, les quelques avancées obtenues ces dernières années sont loin de nous mettre sur les rails de nos objectifs climatiques et sociaux comme le permettraient de vraies rénovations globales. Mais les subventions actuelles ne rendent pas possible le financement de ces rénovations performantes. Les aides demeurent sous-dimensionnées, mal dirigées, difficiles à mobiliser et pour une bonne partie méconnues. Un ménage pauvre sera laissé avec un reste à charge moyen de 39% après les aides, un montant rédhibitoire lorsqu'on sait que ce type de travaux coûte entre 30 000 et 50 000 euros. Nos décideurs ont le devoir de mettre les moyens sur la table pour faire face à la crise qui arrive. C'est pourquoi le collectif donc demande immédiatement la formulation d'engagement à moyen terme, l'engagement d'un budget de 5 milliards d'euros supplémentaires par an entre 2024 et 2040 qui doit être formulé pour rendre possible la rénovation globale et performante de 700 000 logements par an. La hausse programmée des aides publiques serait un puissant levier pour inciter les entreprises à se mettre au niveau parallèlement à la mise en place d'une véritable politique de formation initiale et continue à la rénovation performante. À court terme, l'augmentation du budget de l'Agence nationale de l'habitat, l'ANAH, à hauteur de 1 milliard d'euros, à minima pour l'année 2023, afin d'amorcer un premier changement d'échelle pour la rénovation globale et accompagner au bénéfice des ménages modestes. Le passage du chèque énergie à 700 euros par an pour les ménages les plus démunis face à l'inflation énergétique. Pour le moment, c'est 150 euros par an en moyenne du chèque énergie et les aides ponctuelles sont loin d'être à la hauteur des besoins. Le collectif réclame encore l'interdiction des coupures d'électricité, mesure qui permettrait de protéger les familles des conséquences de la privation énergétique en cas de difficultés économiques, et réclame également d'empêcher les expulsions et d'encadrer les hausses de loyers en cas de rénovation. La rénovation thermique doit ouvrir la voie à une vraie politique de transition, mais aussi à une politique ambitieuse de lutte contre le mal logement et les inégalités. Le collectif dit qu'il maintiendra la mobilisation pour exiger l'application de ces mesures concrètes et réalistes afin que chacune et chacun ait un logement protecteur pour passer l'hiver et vivre dignement. Voilà, on va s'accorder peut-être une dernière pause musicale très courte avec Malicorne et on se retrouve juste après. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire, 89,4 MHz.
Paysans sans pas, ni veulent. Paysans sans pas, ni veulent. Paysans sans pas, tête ronde, ni veulent. Emportez mon cœur tout au fond de vos casques. Paysans sans pas, ni veulent. Paysans sans pas, ni veulent. Quand on tuera de mépris et de guerre, qu'on désignera au rire votre chimère.
Paysans
sans pas, ni veulent.
Paysans
sans pas, ni veulent. Qu'on enterre mon cœur avec vous sans honneur. Paysans sans peur, tête ronde, ni veulent.
Paysans
sans peur, tête ronde, ni veulent.
Paysans
sans peur,
tête ronde,
ni veulent.
Paysans
sans peur,
tête ronde,
ni veulent.
Paysans
sans peur,
tête ronde,
ni veulent.
Paysans sans peur par Malicorne sur Radio Libertaire 89,4 MHz. Toujours dans l'émission Les Manges de Terre que l'on termine avec une page consacrée des problématiques de l'eau rapidement avec bien une information concernant issue du blog de Marc Lémé, les eaux glacées du calcul égoïste. Tiré du 26 novembre qui nous dit que le parquet de Paris a demandé un non-lieu dans l'enquête sur l'empoisonnement à vaste échelle lié à l'utilisation du chlordécone aux Antilles françaises. Et donc il reprend Marc Lémé une dépêche de l'AFP du 25 novembre. Et donc cette étape a été attendue depuis que les juges d'instruction parisiens du pôle de santé publique avaient annoncé fin mars la clôture de leurs investigations sans avoir procédé à des mises en examen. Interdit en métropole en 1990, le chlordécone a continué à être utilisé aux Antilles jusqu'en 1993, où il est soupçonné d'avoir provoqué une vague de cancer. En 2006, plusieurs associations martiniquaises et guadeloupéennes avaient déposé plainte pour empoisonnement, mise en danger de la vie d'autrui et administration de substances nuisibles. Une information judiciaire avait été ouverte au tribunal judiciaire de Paris en 2008. Une décision de non-lieu, loin d'être un déni de justice, constitue une décision judiciaire à part entière après examen et analyse de l'ensemble des éléments de la procédure concernée. Prend le soin de souligner le parquet dans son réquisitoire définitif daté de jeudi, en tout cas du jeudi 24 novembre et qui a été consulté par l'AFP. Elle n'est pas non plus l'affirmation qu'aucun résultat dommageable n'a été entraîné par l'usage du chlordécone durant la période de son autorisation et ultérieurement, ajoute-t-il donc le parquet. Mais le ministère public considère notamment que les faits sont prescrits s'agissant notamment de l'empoisonnement ou non caractérisé concernant l'administration de substances nuisibles qui empêchent toute poursuite. Pour le parquet, les plaintes procédaient notamment d'un besoin d'information sur l'ensemble des éléments ayant présidé à la réglementation du chlordécone auxquelles les magistrats ont tenté de répondre de la manière la plus exhaustive possible, entre guillemets. Déjà en 2021, les juges d'instruction avaient fait part à plusieurs parties civiles de leur analyse selon laquelle les faits seraient dans leur grande majorité prescrits. Deux mois plus tard, Rémy Heitz, alors procureur de Paris, avait estimé dans un entretien au quotidien France Antilles que la grande majorité des faits dénoncés étaient déjà prescrits dès le dépôt des plaintes. L'annonce de la fin des investigations sans aucune mise en cause avait soulevé un tollé fin mars. La possible prescription de l'action publique a par ailleurs déjà suscité indignation et colère aux Antilles, notamment en Martinique, où entre 5 et 15 000 personnes avaient par exemple défilé dans les rues de Fort-de-France fin février 2021. De qui se moque-t-on dans ce dossier ? Il va bien falloir que les Martiniquais réagissent bien au-delà du volet judiciaire et qu'ils se mobilisent dans la rue, a réagi Maître Louis Boutrin, avocat de l'Association martiniquaise pour une écologie urbaine, qui est partie civile. Nous avons déjà pris rendez-vous le 10 décembre pour nous mobiliser, a annoncé à l'AFP Philippe Pierre-Charles, un des porte-paroles du lagnage pour dépolluer Martinique, un collectif d'associations engagées dans la lutte contre le chlordécone. La décision du parquet est pour lui un crime sur le crime. Les populations antillaises présentent en particulier un taux d'incidence du cancer de la prostate parmi les plus élevés au monde. Ces cancers de la prostate liés à l'exposition au chlordécone ont été reconnus comme maladies professionnelles en décembre, ouvrant la voie à l'indemnisation d'exploitants et ouvriers agricoles. Toujours sur les pollutions diverses, communiqué d'Agir pour l'environnement, donc l'association, sur les microplastiques, puisque le plastique est partout et s'accumule. Nous en mangeons, nous en buvons, nous en respirons. Chaque semaine, nous en ingérons en moyenne 5 grammes, soit l'équivalent d'une carte de crédit. Des microparticules de plastique sont détectées dans les selles, le sang, et peuvent franchir les barrières physiologiques jusqu'aux poumons, le cerveau, le placenta, et au plus près du bébé à naître. Dès 2019, l'Organisation mondiale de la santé reconnaissait officiellement la contamination de l'eau au microplastique. Le plastique a en effet la triste spécificité de ne pas disparaître, mais de se fragmenter en microparticules et nanoparticules, et de perdurer pendant des centaines d'années. Sous l'action du temps, de la chaleur, de la lumière ou de l'abrasion, la pollution devient imperceptible, mais demeure bien réelle, contaminant la biodiversité, le cycle de l'eau, les sols, la chaîne alimentaire et, in fine, de nos organismes. Depuis 1950, plus de 8 milliards de tonnes de plastique ont été produites, dont la moitié ces 15 dernières années. Si rien n'est fait en 2050, la production pourrait tripler et il y aura plus de plastique dans les océans que de poissons. Longtemps considéré comme un matériau inerte et inoffensif, nous réalisons désormais que le plastique pollue de façon insidieuse et persistante à toutes les étapes de son cycle de vie. Le plastique provient de ressources fossiles, pétrole et gaz, qui subissent des transformations chimiques dangereuses pour fabriquer des polymères auxquels on ajoute des milliers d'additifs pour leur conférer souplesse, résistance, couleur, imperméabilité. Parmi ces additifs, pouvant représenter jusqu'à 80% de la matière, on retrouve les fameux bisphénols, phtalates ou retardateurs de flamme, bien connus pour leur toxicité. Au moment de leur utilisation, ces substances peuvent alors être relarguées. L'industrie du plastique contribue aussi fortement aux émissions de gaz à effet de serre, production, transport, incinération. On aimerait nous faire croire que la solution au fléau du plastique passe par le recyclage, or en dehors des bouteilles et flacons, moins de 3% des plastiques sont réellement recyclés. Pire, en recyclant les plastiques, des additifs interdits sont réintroduits, y compris dans les emballages alimentaires, créant de véritables bombes toxiques à retardement. Enfin, malgré cette fable d'une économie circulaire, le plastique n'est recyclé qu'une à deux fois avant de finir incinéré, en décharge, ou trop souvent dans la nature. Depuis les années 50, moins de 1% de tous les plastiques mis sur le marché a été recyclé plus d'une fois. Le recyclage est une illusion qui nous fait perdre un temps précieux et nous détourne des vraies solutions. Il faut sortir au plus vite de l'âge du plastique, nous dit Agir pour l'environnement. Il faudrait donc, dans les préconisations, fermer le robinet du plastique en planifiant de manière contraignante la sortie du plastique d'ici 2030, interdire les plastiques à usage unique sous 5 ans, en ciblant en priorité l'emballage qui est responsable à 45% de l'utilisation du plastique, imposer l'éco-conception, mettre en place une stratégie de sortie des fibres synthétiques non biodégradables, orienter les financements publics vers les alternatives aux jetables. Et voilà, parmi les revendications, je ne vais pas pouvoir toutes les évoquer. si peut-être sur la santé, se doter de méthodes de détection de microplastiques dans l'alimentation pour aller vers une norme zéro microplastique, interdire tout plastique en contact alimentaire susceptible d'être chauffé, plat cuisiné, petit pot bébé, biberon, et également pour les femmes enceintes et les enfants, tendre vers un objectif zéro exposition au plastique en milieu hospitalier et scolaire. Enfin, sur le volet transparence totale et évaluation systématique, alors le slogan proposé est en anglais « No data, no market », c'est-à-dire s'il n'y a pas de données ou d'informations sur le produit ne doit pas être vendu. Et donc, ça donne que sur tout produit plastique vierge et recyclé doit figurer une liste précise des ingrédients du plastique, ce qui implique de lever le secret industriel sur sa composition. Tous les composés non mentionnés et non évalués doivent être strictement interdits. Il ne faudrait ne pas autoriser une substance si son innocuité n'a pas été démontrée. Sans attendre, interdire toute matière recyclée en contact alimentaire ou avec la peau tant que la garantie sur l'absence de substances dangereuses, y compris non intentionnelles, n'est pas fournie. Et puis je voulais vite, pour terminer, faire un écho sur le combat d'Eau et Rivière de Bretagne qui nous dit que le préfet du Finistère vient d'autoriser l'extension d'une porcherie à Landenvez, une décision qui va à l'encontre de la protection de la nature et de la santé des riverains. L'élevage répond aux conditions légales d'extension selon le préfet du Finistère qui a autorisé l'extension de la ferme aux 12 000 cochons en Finistère Nord. Le projet avait pourtant été retoqué à deux reprises en 2019-2021 par la justice administrative et contesté par Eau et Rivière de Bretagne et ses associations membres. Mais grâce à une autorisation provisoire de la préfecture, Avelvor s'était déjà agrandi, produisant 27 000 porcs par an. Ce n'est pas normal de régulariser par derrière, réagit Laurent Lebert, administrateur d'Eau et Rivière et président de l'APPCL. C'est choquant, le préfet régularise pour éviter de mettre la FNSEA et le lobby porcin en colère. Il achète la paix sociale, renchérit Arnaud Cluguery. Le porte-parole d'Eau et Rivière poursuit. Il s'agit ici d'une illustration de l'impossibilité juridique d'endiguer les installations polluantes et illicites. Les associations saisissent la justice condamne, l'État régularise. Les installations polluantes perdurent. Autrement dit, la justice est bafouée par un État qui préfère privilégier l'économie polluante plutôt que la santé humaine. Landenvez est une commune littorale où les plages sont régulièrement fermées pour des raisons de santé publique. L'élevage se situe à proximité immédiate des habitations, d'un lotissement, d'une école, d'une garderie, d'une salle de sport et des salles communales. Le projet jouxte également un cours d'eau en mauvais état et se situe au cœur d'un territoire saturé par ce type d'élevage. Pour nous rassurer, le préfet a annoncé la mise en place d'une instance locale de suivi et assure que l'origine des pollutions sera recherchée en toute transparence. De qui se moque-t-on ? L'origine de la pollution est connue, mais les services de l'État n'ont pas assez de moyens pour assurer un suivi complet, Arnaud Cluguery. Eau et Rivière étudie les suites qu'elle pourrait donner à cette affaire, symbole de la lutte contre l'agriculture industrielle, modèle dépassé qui nuit à la nature et aux humains. Voilà, on souligne, on n'a pas le temps d'aller plus loin, l'émission est terminée. On souligne en tout cas le combat de toutes ces associations. Alors là, c'est sur le terrain juridique, hein, mais évidemment, l'action directe aussi pour arrêter un projet de développement les ZAD par exemple. Tout ça fait système et fait réseau, et en tout cas c'est tout ce qu'on doit développer. Voilà, la fin de l'émission est arrivée. Restez à l'écoute de Radio Libertaire sur 89,4 MHz et on se retrouve tout début janvier, le premier lundi de janvier à 18h comme d'habitude. L'émission Les Mangeux de Terre. Bon mois à vous et à très bientôt.
Un jour je t'aimerai moins, jusqu'au jour où je ne t'aimerai plus. Un jour je sourirai moins, jusqu'au jour où je ne sourirai plus. Un jour je parlerai moins, jusqu'au jour où je ne parlerai plus. fait à peine si l'on se penchait. Aujourd'hui nos regards sont suspendus. Président, résident de la République, où le rose a des reflets bleus. Président, résident de la République, des atomes, fais ce que tu veux. Peut-être le jour où tu ne me parleras plus. Un jour je voguerai moi. Peut-être le jour où la terre s'entrouvrira. Hier on se regardait à peine. C'est à peine si l'on se penchait. Aujourd'hui nos regards sont suspendus. Président, résident de la République, où le rose a des reflets bleus. Président, résident de la République, chérie des atomes, fais ce que tu veux.
Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste.